Service après-vente de la F1.
Salut à tous et bienvenue sur la Dartosphère pour le service après-vente de la Formule 1. Notre première émission rétrospective de la saison sera consacrée cette semaine au Grand Prix de Melbourne. Un Grand Prix qui, après près de 5 mois de trêve et une intersaison passionnante, suscitait une grande attente. Alors, les fans que nous sommes ont-ils été contentés par cette course? Quelles leçons pouvons-nous en tirer pour la suite de la saison? La réponse tout de suite avec nos deux experts de choc, Shinji et Enzo. Bonjour.
Salut.
Bonjour.
Voilà, là c'est bien, ça fait soft et tout, ça fait calme. C'est d'habitude, on a Shinji qui fait bonjour. Là, il nous a fait bonjour tout soft.
À la Jean-Louis.
Ça va, passer une bonne semaine?
Oui, très bien.
Ouais. Pas trop pleuré?
Non.
Non. Ah, Shinji a un petit peu pleuré. Ah bah c'est ça de voir qui m'a abandonné dans un total anonymat. J'ai quand même mis 5 jours à savoir que Kimi avait abandonné. Hein. Moi, j'ai cru qu'il avait fini la course. Mais non.
Loin, mais non.
J'ai appris ça hier en rentrant. Donc, au programme de cette émission, on va avoir un petit paquet de nouveautés. On va essayer de faire court. Ça, c'est bizarre, Enzo, il rigole plus, là. Donc, on va bien évidemment faire un résumé plutôt dense de la course. On fera sans doute un retour sur la polémique du week-end, enfin les polémiques du week-end, l'histoire des diffuseurs, un questionnement autour du KERS, est-ce utile ou pas, sans jeu de mots sur un pilote de Formule 1 bien évidemment. On reviendra sur l'affaire Hamilton.
J'ai pas compris ta blague.
Non, est-ce utile? Est-ce utile?
Ah oh, pardon.
Mais j'avoue, c'était pas une blague volontaire, je me suis rendu compte en le disant que ça faisait utile. Je me suis dit, ça là, faut que je la souligne. C'est rare que ça devienne comme ça. Et puis, on parlera aussi de la safety car. On va aussi inaugurer quelques rubriques. On parlera de l'action de la course. Donc, quel sera pour chacun d'entre nous le dépassement de la course, le ravitaillement de la course, peu importe, on verra. Il y aura la rubrique, attention, accent anglais qui déchire, la rubrique drive-through. Hein, pour faire Formule 1, mais ce sera les cartons rouges. On aura le Malbranque Stop and Go, une rubrique qui devrait exister tout au long de la saison, pour relater les conneries de notre ami Christophe Malbranque. Hein. J'avoue que pendant la course, il en a dit une bonne qui m'a fait me décider à lui dévouer toute une partie de notre émission, hein, et à lui rendre hommage à sa connerie et sa bêtise.
Et il était très en forme. Hein.
Ah ouais, là, il avait la pêche, hein. Ah ouais, là, il avait la pêche. Mais il m'a quand même mis en colère. Et puis on fera un petit détour par la Malaisie, juste pour les pronostics, et puis... Ouais. Parce qu'il faut quand même dire à tout le monde que là, on est samedi soir, donc on sait déjà le résultat des qualifications, et qu'on sait déjà, Enzo et moi, qu'on s'est un petit peu planté dans nos pronostics. On va perdre notre deuxième place, ça c'est certain. Donc, commençons, je sais pas, par les qualifications. Oui ou non?
Très bien.
Ah, les mecs, ils sont à la ramasse. Hey Enzo, faut te sortir tes tomates et tes poivrons, hein.
Ouais, c'est bon.
Alors, qui nous fait la grille?
Bah, pas moi, j'ai rien sous les yeux.
Oh là là, ah, ça y est, bah... je l'ai sous les yeux.
Ah bah voilà, Shinji.
Bon. Je descends la grille ou je remonte la grille?
Ah, je sais pas. On va la faire à la Denis Brogniard, on va remonter la grille.
On va remonter la grille. Alors, 20e, Yarno Trulli sur Toyota.
Et Ouais, mais ça c'est parce qu'ils ont été disqualifiés.
Voilà, non, mais j'allais préciser, donc avec Clock, 19e, donc ils ont été disqualifiés pour aileron non conforme. Il était trop flexible.
Ouais.
Et leur vrai temps, c'était combien donc?
Bonne question.
Alors, Glock, 1.26.975 et Trulli, 1.27.127.
Et ça faisait, ça faisait quelle position ça? Je suis salaud.
Là, je sais que Shinji ose pas te le dire, mais il t'emmerde.
6e et 8e.
Ah.
Ah, bah voilà. Donc ensuite,
18e, 9e... Lewis Hamilton, qui a pas de temps.
Ouais!
Donc à cause d'un problème mécanique.
Lui c'est sans ouais, être disqualifié lui.
Alors non. Il a pas. Alors il est allé en Q2, il a fait le 15e temps et ensuite il a changé de boîte.
Voilà.
Donc il a reculé de 5 places.
Et... Mais ce qu'il a pas compris c'est ce qu'il a pas compris c'est que cette saison c'était pas la boîte qu'il fallait changer, c'est toute la voiture.
Ouais. Donc et comment en fait et comme les pénalités Toyota ont eu lieu après, c'est pour ça que Toyota est derrière.
D'accord. Voilà.
Donc 17e le vrai dernier.
Hein.
Sébastien Bourdais 1.26.964.
Oui, bah c'est officiel, la 17e place n'existe plus maintenant, c'est terminé, on parle plus de la 17e place. C'est trop triste de voir le français en dernier comme ça, là.
Ensuite... Ah, il est devant le champion du monde, quand même.
Ouais, mais pas à la régule, enfin... ça ne tient qu'à une boîte.
Voilà. Ouais. 16e, Sutil, et 15e, Fisichella. Juste...
Voilà.
14e, notre magnifique. Chouchou.
Ma vie, mon podium!
Nelson Piquet. Il est devant un champion du monde.
Ouais, voilà. Ouais, ouais.
Ah bah, on peut le sortir.
Ah, mais en plus, le pire, c'est qu'il est devant la régulière.
Bah ouais.
Puisque Hamilton a fait le 15e temps, donc...
Oui, en plus,
oui. Ah, c'est terrible.
C'est quand même le seul pilote qui nous fait regretter Ralf Schumacher, quoi.
C'est vrai.
Ouais. Et qui compense un peu le départ de Barrichello. Enfin, le fait que Barrichello reste.
Ah.
Ouais, oui. Le non-départ.
Désolé, je suis fatigué cette semaine.
Donc, 13e, Buemi.
Ouais, belle performance hein, pour Buemi. En qualif, il arrive à se qualifier tout de suite en Q2.
4 dixièmes devant Bourdais.
Bah voilà.
Ouais.
Donc c'est... Ah non, mais je dis une connerie.
Non,
Piquet, il était même pas devant Hamilton.
Il a...
Bah non, puisqu'il y avait les deux Toyota qui sont remontés. Donc il était derrière Hamilton.
Oui.
Hey.
Hamilton à la régulière, il était 15e.
Piquet, il fait partie des éliminés de la Q1.
Voilà. Parce que je me souviens moi-même quand j'ai regardé la qualification, je me suis réveillé à la fin de la Q1. Et quand j'ai vu la liste des mecs qui étaient disqualifiés, je fais bah tiens, on est en 2008. Ça a rien changé le Kers. C'est quoi ce monde de merde qui change rien?
Non, c'est pas vrai, il y avait pas les Honda.
Non, c'est vrai, tiens.
Ouais.
Il y avait Force India, il y avait Toro Rosso.
Donc, 12e, Kovalainen. Donc, lui à la régulière. Donc, c'est bien la preuve que c'était pas du pipeau, hein, les performances de la McLaren.
Ouais, ils ont eu des petites éclaircies au début des essais où on a espéré.
Ouais. C'est quoi, on peut pas mettre les ronds 2008.
Ce qui a dû rendre Enzo super joyeux. Et Enzo qui est devenu McLareniste hein, maintenant, tout le monde le sait.
La preuve, mon carton rouge. C'était ton week-end.
Ensuite, donc 11e Nakajima.
Ouais. C'est...
10e.
Un peu décevant Nakajima par rapport à
Vous
essayez les Williams.
Bah les deux d'ailleurs hein. Quand on prend Rosberg aussi, Rosberg qui a été très impressionnant et qui se classe pas en pôle.
Il avait peut-être beaucoup d'essence, je sais plus. Non, pop.
Ouais, je...
Alors 10e Alonso.
Ouais.
Donc lui qui disait qu'il était venu pour c'était quoi? C'était 70% de chance de gagner.
Bah c'est ce qu'il a eu hein.
Bah il est tombé dans les 30%. 9e Hetfeld.
Ouais, Hetfeld qui était équipé du Kers.
Avec
donc
Kers,
il était.
Yes.
Donc 8e, Weber.
Ouais.
7e, Raikkonen.
Oh la vache.
6e, Massa.
Oh la vache.
Attends, tu verras.
5e, Rosberg.
La semaine prochaine.
Quoi? Qu'est-ce que tu sous-entends? Elles vont se qualifier en première ligne, moi je te le dis.
En Malaisie?
Ah. Ouais, comme ça. Je m'engage. On est samedi soir, je m'engage.
Attends, la FIA a le temps d'en disqualifier quelques-uns devant lui hein, pendant la
Ouais, ça a déjà commencé. Hein. Mm-hmm. On a déjà deux en moins devant.
Oui. Donc je disais 5e Rosberg.
Merde. Bah, c'est décevant pour Rosberg.
Bah oui, comme tu disais, Enzo, il a été le plus rapide sur les essais libres.
Bah à un moment donné, je crois qu'il a même collé une seconde à tout le monde. Enfin, une seconde deux.
Ça fait, ouais.
Pour moi, ça a été vraiment la grosse surprise des essais, la Williams. Je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi bons, quoi. Bah, ils ont confirmé en course qu'ils étaient pas si bons que ça, puisque
ouais.
Ils se sont quand même qualifiés super loin.
Quatrième. Donc en 1.26.914, Kubica.
La grosse surprise. Parce que Kubica, surprise, franchement.
La surprise, elle est en troisième position, à mon avis.
Ouais surprise sur l'ensemble, mais sur les essais, Kubica avait quand même été légèrement largué par rapport au reste, et ce qu'ils ont confirmé d'ailleurs entre-temps. Mais bon, le voir quatrième aussi bien placé, c'est quand même assez surprenant. D'ailleurs, la deuxième ligne, totalement, est surprenante. Hein. Parce qu'ils ont Neil Kers, ils ont pas les diffuseurs magiques, donc c'est...
Troisième. Et là, je rejoins Enzo. Vettel en 1.26.830.
Ouais. Dire que j'avais dit que Red Bull, c'était mort. Et donc, une première ligne toute blanche.
Toute et jaune. Blanche. Et
rouge.
Noir.
Et noire.
Et un peu doré aussi, parce que...
Donc, deuxième position pour Rubens Barrichello.
1.26.505.
Encore une fois, il est deuxième. Hein. Ah, je vais la faire souvent cette saison. Je suis obligé.
Non, mais c'est pas mal ce système de grille inversée quand même.
Mais c'est vrai qu'avec Hamilton et tout, en fait, ce qui gruge, c'est d'avoir une première ligne Toyota.
Oui.
Ouais.
Voilà. Heureusement qu'il y a eu des disqualifiés, ça donne un peu de crédibilité à la théorie de la grille inversée, parce que deux Toyota, ça étonne quand même moins qu'une Toro Rosso et deux Force India aux avant-postes.
Ouais. Et donc la pole en 1.26.202 pour Jenson Button.
Ouais, quatrième pole de sa carrière.
Eh ben ça me fait plaisir, moi.
Ouais, moi c'est pareil. Moi ça m'a fait plaisir... À la fois la pole et la victoire, parce que c'est quand même un mec qui a un bon pilote, qui était convoité par pas mal d'écuries quand Honda a annoncé son départ. Et c'est un mec qui a choisi de rester dans une écurie qui était pas sûr de rester. Et bah voilà, il a fait un bon choix. Aujourd'hui, il est récompensé. Et moi, je dis chapeau, Monsieur Button.
Tout à fait.
Il a peut-être même... J'ai pas envie de dire que l'équipe est morte-née, mais il a peut-être sauvé l'équipe avec cette victoire. En restant et en gagnant.
Ouais, parce que bon, là, cette semaine, apparemment, il n'y a pas eu trop de... On sait que l'équipe sera là en 2010. Parce qu'ils ont signé un partenariat avec Virgin, un contrat de 30 millions assez important. Là, cette semaine, on parle aussi d'un sponsor qui serait une boisson un peu genre Red Bull, Flame, je crois. Pour sponsoriser soit Williams soit Brown Grand Prix, mais sinon pour le moment c'est vrai que ça se bouscule pas, il y a pas eu de grosse annonce et apparemment au niveau argent ça reste quand même serré.
Ouais.
On parle aussi de l'arrivée d'une marque, c'est pas de boisson énergétique mais c'est de d'eau minérale chez McLaren, Vittel, buvez éliminé. Désolé. Désolé.
Ça c'est les idées que t'as eues pour des dessins mais que t'as pas réussi à concrétiser.
Non, ça me nuit là direct là.
Bah c'est vrai qu'à l'époque de chez Kimi Raikkonen ça pouvait pas être possible.
Ah non. C'est pas pour rien qu'il y avait Johnny Walker. Hein.
Voilà. Ça s'agit chez McLaren et pourtant. Donc voilà pour la qualif, donc une première ligne toute blanche pour ce premier Grand Prix des Brown Grand Prix. Surprise mais pas surprise.
Ouais, c'est ça, c'est exactement ça.
Voilà, c'est bon. C'est un petit vent nouveau, ça fait plaisir.
C'est quand même une surprise parce qu'on a vu quand même souvent pendant les essais hivernaux des des voitures dominer les essais et puis faire un flop derrière, quoi.
Oui.
Voilà.
Je pense à une certaine Prost Grand Prix avec un franchouillard Jean Alési qui pendant l'hiver avait fait des super temps et pouf, est rentré dans le rang après dès la première.
Mais même cette année, hein, moi je pense à une équipe un peu rouge sur sa livrée. Qui a pas mal fonctionné pendant les essais et qui, depuis le début de la saison, fait un peu de la merde.
Un peu quoi?
Un peu de la merde.
Non, mais moi, j'ai pas compris. Un peu rouge?
Un peu rouge, enfin, même beaucoup rouge.
Je vois pas ce que tu veux pas. Toyota, peut-être. Ah oui, c'est vrai, c'est le dernier, là.
Beaucoup rouge et un petit peu de jaune sur le museau.
Ouais.
Mais je sais pas, je me rappelle plus du nom. Voilà, je sais pas. Alors, un petit rappel sur la course. Le départ.
Alors juste avant, moi, je voudrais juste dire un truc sur la course. Ouais. Eh ben, en voyant les voitures pendant la course, je me suis dit finalement elles sont pas moches.
Eh ben, c'est drôle parce que moi j'ai pris des notes pendant la course et je voulais justement en revenir à la fin de l'émission que en fait en course les voitures sont pas si moches que ça.
Tout à fait.
Non, c'est vrai, ouais.
Et je les ai même trouvées plus jolies que ce que je pensais.
Pareillement.
Donc voilà, c'est drôle, hein, les grands esprits se rencontrent. Et ça fait mal. Donc pour la course, le départ, moi personnellement j'ai pris mon pied.
Ça a été houleux comme prévu.
Moi j'ai eu le départ dont je rêvais.
parce que je l'ai noté, parce qu'on se posait la question, qui a pété le premier aileron avant?
Bah, toi t'avais dit Weber et ça a été Weber, je crois, non?
Non, j'avais pas dit Weber. Je pensais comme tout le monde que c'est Nakajima, mais c'est
voilà,
Weber.
Voilà, ouais. Mais en ce moment, il est habitué à se péter des trucs, hein.
C'est vrai. Oui.
La jambe, l'épaule, l'aileron, hein, même topo.
Ça m'a été dommage parce que vu les performances de la Red Bull, ça a bousillé sa course.
Non, vu les performances de Vettel. On sait pas s'il aurait fait aussi bien. J'ai un doute, moi, sur Weber. Je sais pas pourquoi.
Je dis pas qu'il aurait fait aussi bien que Vettel.
Moi, c'est pareil. Moi, j'ai toujours trouvé. Je trouve que Weber, en fait, il est arrivé à une époque où il n'y avait pas vraiment de jeunes talents qui étaient en train d'exploser, et donc on l'a un petit peu promu champion du futur.
Ouais, tout à fait.
Sauf que est arrivée ensuite la génération des Hamilton, des Vettel, des Kubica, des mecs qui sont sortis un peu de nulle part dans l'esprit des fans. Et voilà, après, il s'est pris une tollée et aujourd'hui. Moi, je le vois comme un coultard à la limite. Et il peut gagner des courses dans une grosse écurie, il pourra gagner des courses, mais après.
Il en a jamais gagné.
Weber.
Ouais, non, il a jamais.
Non, non, non. Non, non. Mais il est pas dans une grande écurie.
C'est vrai.
Mais non, moi, faut quand même dire pour la défense de Weber que c'est un peu la faute de Barrichello.
S'il a cassé son aileron.
Voilà.
Ah oui, c'est vrai que.
C'est quand même un petit peu. Faut quand même noter. Je sais plus qui c'est qui est derrière Barrichello. Je crois que c'est Weber, je crois, sur la grille. Non, c'est Vettel.
Oui.
Non, c'est non. Weber. C'est Weber qui est sur la grille derrière Barrichello.
Trois lignes derrière.
Et,
ouais.
Trois lignes derrière.
Et tout le monde part. Donc Kubica part, Massa part. Weber ne voit pas que Barrichello est toujours scotché sur la grille. Et il fait une espèce d'angle droit là, en plein milieu où il se décale. C'est un truc de dingue. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais fou. Et je me demande si c'est Weber ou si c'est Kubica. J'ai un doute. Mais non, c'est vrai que Barrichello, il nous a torché le départ, quoi.
Ah là, ouais, en beauté.
Il doit plus être habitué, ou alors, je sais pas, il voit que d'un œil.
Faut le comprendre, hein. Il a pas une grande expérience des départs de F1, donc.
Ouais, mais pourtant, il a l'habitude d'être deuxième.
Tiens.
Ah, le fil rouge. voilà. Au niveau du départ, on peut noter le très beau départ des écuries équipées du Kers, et notamment les deux Ferrari. On l'avait un peu envisagé dans l'émission d'avant-saison. On l'a eu. Moi, ouais, j'ai trouvé ça très joli.
C'était sympa.
Toutes ces voitures, c'était le bazar, etc.
Ouais, c'est le bazar.
Généralement, on avait des départs assez costauds, mais bon, où tout avance à peu près dans un certain ordre. Là, ça a explosé de partout. En plus, Barrichello qui vient foutre la merde en branlant son départ, quoi. Et ça va dans tous les sens. Moi, j'ai trouvé que c'était un beau départ.
Mais je pense qu'on aura ce genre de départ toute l'année. Hein. tant que toutes les écuries n'auront pas un quart et l'utiliseront, ouais. Je pense qu'on aura d'un genre de départ, quoi.
C'est vrai. Donc, ensuite sur le reste de la course, bah on a eu un début de course assez tranquille, je dirais, parce qu'on a eu pas mal de dépassements, notamment des voitures un peu plus performantes comme les Toyota qui ont passé pas mal de pilotes. On a eu c'est pour tout, et puis après on est arrivé aux premiers arrêts au stand.
Ça arrivait vite, hein.
Très très ouais. Rapide.
À cause des pneus tendres.
À cause des pneus, ouais. Je crois que les premiers arrivent à ravitailler, c'est les Ferrari. Je crois que c'est Kimi avec 10 tours.
Au dixième tour, ouais.
Au deuxième tour.
Et Massa, le tour suivant avec Hamilton.
Ça a été le gros problème du week-end. Ça a été les pneus, quoi.
Entre autres.
En même temps, c'est...
Surtout ceux qui ont choisi les tendres en premier.
Voilà, en même temps, c'est aussi ce qu'on demandait. On demandait aussi est-ce qu'il y a un écart plus important entre les pneus. Et là, c'est vrai que bah, malheureusement, quand tu pars avec le plein et que tu as des pneus tendres, le seul truc qu'on peut remettre en cause, c'est peut-être le choix de Bridgestone d'avoir mis ces deux mélanges-là plutôt que des mélanges plus durs. Mais en dehors de ça, moi j'ai trouvé ça sympa, quoi.
Mais je pense que le choix de partir en tendre était peut-être le meilleur, même, parce que quand on voit ceux qui ont fini avec des tendres, bon, Button, il avait de l'avance, mais ça s'est plutôt pas trop bien fini pour Rosberg, Vettel.
Bah Vettel, hein.
Etc.
Vettel par rapport à Kubica,
c'est la meilleure solution de partir en tendre au début, hein.
Voilà.
Même si ça obligeait à s'arrêter très rapidement.
Mais en plus, ça permettait de faire un plus petit arrêt au stand, c'est-à-dire que tu pouvais partir avec, je pense que la plupart des pilotes qui sont rentrés au stand au deuxième tour, il leur restait de l'essence, donc en fait, ils ont passé moins de temps à charger la voiture en essence dans leur pit stop. Donc sans doute que ils ont passé moins de temps au stand, donc ils ont peut-être pu grignoter du temps.
Ce qui est malheureux, c'est que je pense qu'ils pensaient pouvoir faire plus de tours, au moins 5-6 peut-être de plus pour Raikkonen.
Ouais.
Donc ça veut dire qu'il aurait pu enlever 5-6 tours d'essence pour faire les qualifs. Ça veut dire qu'il aurait peut-être pu partir deux ou trois lignes, du moins deux ou trois places devant, et peut-être au départ être même encore mieux placé, quoi.
Ouais.
Bon, c'est dommage.
Ah, maintenant ils le sauront, hein.
Oui. On va voir s'ils savent tirer les conséquences en Malaisie.
Effets spéciaux. Donc, on a eu des premiers ravitaillements qui ont été assez soft. Jusqu'à la sortie de notre ami.
Ruben Barrichello. Non?
Non,
Nakajima.
La sortie des stands.
Ah non, c'est de piste. Alors, c'est vrai que dans les stands, il y en a eu des belles. Notamment Physico, qui nous a quand même offert une magnifique marche arrière dans les stands, poussée par les pilotes, alors tout le monde ravitaille à côté. Moi, j'ai trouvé ça assez joli. Je remercie Physico, hein, parce qu'à un moment donné, il a concurrencé Piqué et Ralf Schumacher en même temps. En même temps, les deux réunis. Hein.
Oh, ça s'est déjà vu, hein, ça, ce genre d'incident. Hein.
Ouais, mais là, quand même, ça s'est déjà vu, mais quand ? Il y a un bail. Hein ? Ou alors, vraiment, ça se voit. Mais là, tout le monde regardait, quoi. On s'est tous foutu de sa gueule. Donc, moi, j'ai trouvé ça rigolo. Mais c'est encore la preuve de ce que je disais et ce qui s'est passé d'ailleurs dans le deuxième arrow stand de Button. Faut pas oublier, c'est que les petites équipes, elles sont pas aussi entraînées que les grosses équipes, et que dans les stands pour les petites équipes, va y avoir des boulettes. Button a perdu, je crois, 10 secondes dans les stands. Là, on a une boulette de Physico. Donc, et puis là, je voyais aujourd'hui dans les essais du Grand Prix de Malaisie, il y avait un comparatif en fait entre les radios de McLaren, je crois, et les radios de Brown Grand Prix. Et les radios sont hallucinantes parce que McLaren, on a quasiment l'impression que c'est au téléphone, alors que chez Brown Grand Prix, c'est quasiment du talkie-walkie, ça grésille de partout. Donc, c'est ces petits détails qui vont aussi occasionner des erreurs et qui peuvent faire basculer des courses.
Non, chez Brown Grand Prix, c'est carrément une CB qu'ils utilisent. Hein. Ils n'avaient pas les moyens pour la radio.
Et moi, je croyais en fait à la base que c'était des canettes de Red Bull à relier par un fil.
Non, non.
Mais il paraît que c'était chiant pour les communications, alors.
Fallait défaire les deux à chaque tour.
Ouais. Bah, y avait un mec qui était affecté, mais il y a eu 3 morts par décapitation. Donc, oui, l'accident de Kakajima. Moi, j'aime bien l'appeler Kakajima. Parce qu'il fait que du caca sur la piste. Ah, sérieux, il est très rapide. Mais il nous torche les courses, mais de manière assez phénoménale, quoi. Et puis là, bah, il est sorti. C'est pas trop de sa faute. C'est l'espèce de comment ça s'appelle en sortie de la deuxième chicane, je crois. Il y a un petit terre-plein pour éviter que la voiture passe. Lui, il a sauté dessus, puis bah il s'est bouffé le mur.
Ouais, il nous a fait une piquette.
Voilà, assez violemment d'ailleurs.
Hein. Oui.
Ah non, maintenant piquer c'est
piquette, le pilote rapproche qui rappe les murs.
Non, piquer maintenant c'est mieux, c'est je me rapproche d'une voiture et sans la toucher, je fais un tête à queue. Sans la toucher.
Sans les mains.
Maintenant je touche plus les voitures. Voilà. Non mais c'est on a eu deux beaux accidents, deux très rigolos. Et puis il y a eu l'intervention de la safety car. Deux tours après. Comme par hasard, quand Button allait ravitailler, et avec une nouvelle démonstration de ce règlement safety car dont on finalement.
Mais il a changé, hein.
Ouais, mais c'est ça le truc, bah, c'est qu'il a encore changé.
C'est un truc encore plus tordu cette année.
Ah, c'est encore pire, en fait. Mais alors maintenant, j'ai rien compris, moi. Maintenant, il y a un temps minimum à faire pour pouvoir aller au stand.
Voilà, c'est-à-dire que quand il y a le safety car, ils doivent rentrer.
Ils peuvent rentrer.
Peuvent rentrer, mais ni trop lentement, ni trop vite. Parce que là,
donc,
voilà. Pourquoi ils ont changé ce règlement de safety car?
Mais en plus, c'était super long, quoi. Ça a duré 5 tours, 9 minutes, parce que j'ai tout chronométré et tout. Hein. Pourquoi? Bah, pour juste un mec qui est sorti avec deux bouts de carbone par terre. Voilà. Donc moi les intentions qui sont derrière sont louables, c'est-à-dire que moi ce que j'aime bien dans ce règlement c'est l'idée de remettre de l'ordre dans le peloton. Parce que je me souviens notamment il y a un an ou deux ans
que les pilotes puissent se dédoubler. Ah non, moi je suis complètement contre. Je trouve ça ridicule.
Ah non, moi je trouve ça pour. Moi je me souviens Melbourne je crois que c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, pareil, il y avait une safety car et on avait eu Alonso qui était en tête et on avait derrière on avait deux voitures qui étaient deux retardataires, et puis on avait derrière le deuxième. Donc forcément, là, la safety car, elle rééquilibre rien, elle réajuste rien, puisque on a le premier qui va pouvoir prendre la poudre d'escampette, et on a le deuxième qui va devoir se coltiner les deux retardataires. Donc l'idée pour relancer un peu la course, de remettre tout le monde dans l'ordre, je trouvais ça assez sympa, un peu à la façon de ce qu'on fait en NASCAR.
Bah, à ce moment-là, il faut que ce soit beaucoup plus rapide.
Ouais, voilà, plus court.
Ouais.
La 5 tours, sérieux.
Ouais.
Mais moi, je pense qu'il faudrait faire, c'est revenir à l'ancien système où on fait rentrer la safety car et voilà, on fait un tour, on fait rentrer la moitié des voitures dans le tour, un peu à ce qu'on fait en NASCAR. Hein. Les mecs qui sont dans le tour, on les fait rentrer dans le tour, on fait un deuxième tour, les mecs qui sont retardataires ou les positions 11 à 20, on les fait rentrer dans le deuxième tour, et puis hop, tout le monde repart. On a remis le peloton dans l'ordre, ça a pris 2 tours, et puis basta.
Ouais, pourquoi pas.
Là, c'est... Alors, en plus, on a l'impression qu'on est encore dans la course, puis les mecs, c'est sous drapeau jaune, mais s'ils perdent du temps à un endroit, ils vont rouler à fond à un autre endroit, donc ça n'a pas d'intérêt, quoi.
Enfin, on va pas critiquer la safety car, quand même, hein. Ça a permis de disqualifier Hamilton. Oups.
Alors, officiellement, c'est d'abord ça a disqualifié Trulli, puis après ça a disqualifié Hamilton. Hamilton qui n'a fait qu'obéir. Hein.
Au sens strict, c'est pas la safety car qui a disqualifié Hamilton.
Non, c'est la FIA.
C'est son mensonge.
C'est vrai.
Mais c'est pas de sa faute, elle est oui, c'est la faute de son patron. Hein, c'est bien connu, hein, il l'a forcé à mentir. Il lui a dit, attention Lewis, tu dis pas ça, t'auras pas de sucette ce soir après manger. Pas de glace.
Bon, c'est pareil. Reprenons la course.
Pendant la course, on a eu une autre petite boulette. On en a parlé, celle de Piquet.
Ouais.
Qui nous a fait un double boucle appliqué en pleine ligne droite.
Comme un grand, tout seul.
Ah oui. Ouais. Puis à un moment donné, il y a eu un petit peu de suspense. Est-ce qu'il a touché ou est-ce qu'il a pas touché? Hein. Et quand même, là, il a pas touché. Moi, je dis bravo. Se planter tout seul, comme une grosse tâche, et ne toucher à personne, moi, je dis, ce mec-là, il mérite sa place en F1, juste pour nous faire rire.
Et après, il a dit qu'il avait eu un problème de frein, quand même. Hein.
Ouais. Bah, oui.
Alors qu'il est en plein milieu de la ligne droite, quoi, donc... bon, Fisico qui se gourre au stand, ça, on en a parlé. C'était quand même pas un grand prix. Assez bizarrement, on a un podium qui est très vieux, puisqu'on a trois anciens sur le podium au final. Mais on a quand même deux grosses boulettes de deux vieux. Barrichello au départ, et Fisico dans les stands.
Ouais.
Les vieillards en prennent un coup dans la gueule, quoi. Ouais, sinon, c'était aussi la fête des pères en Australie.
Oh là, attention.
Fête des pères.
Eh ouais, il y avait attention. Papa Hamilton, Papa Massa, Papa Button. On les a tous vus pendant le Grand Prix.
Ah, j'ai pas vu Papa Massa.
Ah ouais, ouais, moi, j'ai pas vu Papa Massa.
Non, je l'ai pas vu, mais c'est une tradition. Papa Massa, il est souvent là.
Ouais, mais il est pas tout le temps là.
Bah là, il était pas là, hein, de toute façon, pour ce qu'il y avait à voir sur Massa.
Et on a vu Papa Milton.
Ouais, on
l'a
vu,
ouais. Ah oui, c'est marrant, parce qu'on
peut faire Papa Milton. Ah ouais, ah. Tant que c'est pas Pepe Boynton. ouais, moi, ça m'a fait rire quand j'ai vu ils nous ont fait un petit pitch, là, sur le père de...
Ah oui.
Le père de Hamilton. Ah, je me suis fait, ça y est. Alors, après le père d'Hamilton, le père de Massa, on a le droit au père de... Le père de Button. Et ce qui est très drôle, c'est que, si je me trompe pas, on a le père de Kovalainen et le père de Raikkonen, qui sont eux aussi des pilotes, et qu'on voit jamais.
Mais ils sont peut-être jamais là.
Bah ben, voilà, mais enfin, eux, on les voit jamais. Ceux qu'on voit, c'est ceux qui ont rien à foutre, hein, ou ceux qui ont plus d'argent, hein. mais le père Piquet, bon, lui, on le voit pas, mais lui, je vois plus mal.
Oh, attends, le père Piquet.
Ah non, on le voit rarement à la télé, hein.
Ah, à la télé, ouais.
Ah voilà, le père Kakajima. Enfin, Nakajima.
Ouais. Non.
Non plus.
Non. Le père Buemi.
Non plus. Pourtant, c'était la première chose de son fils.
Ah ouais, voilà, il aurait pu être là. Le père Vettel, il est pas là.
Non.
Mais voilà, donc c'était la fête des pères.
Voilà. Il y avait le grand frère de Massa.
Et, ah ouais, ouais.
Michael.
Ils sont ensemble, non?
Michael.
Michael Massa.
Bah, c'est un peu son grand frère, quand même. Hein.
Bah, c'est ce qu'ils ont souvent dit. Et il n'y a pas besoin d'être... On se souvient tous de la saison 2006. Quand moi, je me rappelle l'Allemagne en 2006, quand Massa, il est, je crois, une seconde plus rapide que Schumacher, mais qui reste deux secondes derrière lui. Moi, je me dis, ouais, ça, c'est... C'est du gamin, ça. A tout compris.
Ouais.
Pas Barrichello. Là, au moins, Massa, jamais il restera tanké sur la ligne de départ. Il va faire quelques tours, puis après, il abandonne. C'est malin. Tiens, comme on parle des abandons de Massa, enfin, de l'abandon de Massa, et puis celui de Raikkonen, je sais toujours pas ce qui est arrivé à Raikkonen.
Mais moi,
je sais qu'il a abandonné.
Moi, j'ai l'impression qu'il s'est arrêté parce que il pouvait plus rien espérer, donc il en avait marre. Et j'ai vraiment eu l'impression que c'était ça, quoi.
Parce que il à un moment donné, je voyais à Raikkonen 5 arrêts au stop. 5 pit stop.
C'est vrai qu'il en a fait un troisième et ça a surpris.
Mais apparemment, ce que j'ai lu aujourd'hui, c'est qu'il a eu un accident. Enfin, il a tapé.
Oui, ouais, il a tapé, un peu.
De toute façon, ça gagne pour. Donc, mais enfin là, Ferrari, ils sont pas chez eux, quoi, à Melbourne.
Enfin, ils y étaient pas la semaine dernière, en tout cas.
Bah, déjà l'année dernière, ils étaient pas chez eux. On se rappelle d'une année où je crois que c'est Schumacher qui se bouffe le mur à la sortie de la dernière chicane et Massa qui se bouffe le premier virage. Donc c'est pas vraiment leur terrain de jeu.
Stat F1 nous dit différentiel pour Raikkonen.
Ah bon? Ouais, c'est bizarre. En tout cas, ils sont pas fiables les Ferrari.
Non. Ah non.
Donc pas fiable, et en plus on a quand même entrevu niveau performance, c'était pas terrible. Donc voilà.
C'était moyen.
Ouais, moyen.
Alors la bonne nouvelle quand même de Raikkonen, parce qu'il faut en trouver une, c'est qu'il a repris son vrai casque.
Ouais.
Et non pas celui des essais qui n'est pas beau. Bon, ça fait léger ouais, comme bonne nouvelle.
Celui-là, il est bien, ouais.
Ça fait léger comme bonne nouvelle.
Ça te rassure surtout, ouais. Hein.
Non, j'avais fait
parce
les deux.
Parce que le casque de Kimi doit être légèrement chiant à faire.
Mais je l'ai fait les deux, je te prends remarqué.
Ah bon? sinon, bah, dernier événement de la course, vraiment important. Dans les 5 derniers tours, on a dit tout à l'heure que des pilotes avaient choisi de partir avec les pneus tendres, dont faisait partie Kubica. D'où la plupart des autres avaient choisi des pneus durs, dont faisait partie Vettel. On a Button qui s'est planté au stand dans les ravitailleurs, ce qui fait qu'il a perdu 10 secondes, mais il en avait quelque chose comme 15 ou 16 d'avance. Et donc on avait en tête Button et Vettel qui étaient en dur et Kubica qui était en train de leur bouffer 2-3 secondes ouais. Parce qu'il était en tendre. Et est arrivé ce qui est arrivé. Oui. C'était quoi ce bruit?
Pas moi.
Alors Shinji, qu'est-ce qui t'arrive?
C'est moi qui fais un. Ah.
Ah mais tu prends du plaisir à faire le SAV. Ah, Black Shinji nous a des orgasmes en live, dis donc. Donc, le crash entre Vettel et Kubica, bah voilà, ils ont voulu passer à deux dans un virage, et puis bah.
Et ce n'est qu'un incident de course.
De course.
Voilà.
C'est vraiment ce que veut nous faire croire la FIA.
Ah ouais, non mais alors ça.
Faut arrêter quoi.
10 places, non mais franchement.
Franchement,
alors ça, c'est une...
franchement, faut croire que ceux qui les commissaires, ils ont jamais vu cette époque de Sénat quoi. Il y avait quand même moins de pénalités et pourtant Sénat et Berger à l'époque quand ils étaient sur McLaren, ils en ont sorti des pilotes.
Ah oui.
Mais ouais c'est n'importe quoi. En plus le comment s'appelle Vettel, il est déjà pénalisé.
Oui.
Il fait minimum une troisième place. Sur la Red Bull que personne n'attendait vraiment et qui en fait se révèle très bonne. Donc quoi qu'il arrive, il fait un bon début de saison. Il est déjà pénalisé, il s'en veut énormément et tu lui rajoutes 10 places derrière. Comment on peut prétendre vouloir aider les petites écuries et derrière, à la première occasion, les descendre?
Ah mais de toute façon, maintenant, dès que les voitures se touchent, ça devient une pénalité, c'est incroyable.
Ouais, c'est pénible ouais. Ça.
Donc voilà, vous c'est 50-50 les torts.
Oui, voilà, c'est de l'incident.
Ouais,
de course,
sans doute.
Ouais, parce qu'au moins on a Kubica qui a pas franchement non plus à être impatient derrière Vettel parce que il lui colle trop 4 secondes et puis il y a d'autres emplacements pour doubler.
Voilà.
Et bon, il y a Vettel qui est un petit peu trop têtu et voilà, il tient à sa deuxième place.
C'est très con, mais ça reste de l'incident de course.
Tout à fait.
Voilà.
Tout à fait.
Ce qui a préservé Button.
Oui.
Qui à partir de ce moment-là, bah littéralement, puisqu'ils ont sorti de la safety car, donc on a eu depuis très très longtemps un finish sous régime de safety car.
Canada on a, la dernière fois.
Ouais.
Et voilà. On a donc Button qui l'a emporté. Première course, première victoire. Que dire de plus?
Heureux.
Non,
mais
ouais.
Sincèrement, c'est moi je trouve que c'est sympa pour Button. Il en a chié ces dernières années. Il a fait des choix d'écurie qui étaient peut-être pas à un moment donné de sa carrière. Mais bon, voilà, ça paye maintenant et je suis content pour lui.
Ouais. Mais pour Brown aussi, hein, enfin pour toute l'équipe.
Oui.
Alors je sais qu'il y a eu je crois que c'est le dimanche après-midi, Brown a annoncé qu'ils allaient licencier 270 personnes. Bon, malheureusement, malgré la victoire, ça n'empêche pas que ça reste une petite écurie et qu'il faut quand même rappeler que Honda, ça vivait, c'était une grosse écurie qui vivait avec 600 employés et qu'aujourd'hui, bah Brown, ils ont besoin que de 400 employés, donc ils ont licencié. S'ils n'ont pas besoin de plus, c'est très bien. C'est une petite équipe qui gagne avec un gros savoir-faire parce que Button, c'est un très bon pilote.
Ils ont licencié, je crois, 270 employés et Honda a licencié un employé, celui qui avait décidé de vendre l'écurie.
Ouais, parce que franchement, alors ça, c'est terrible pour Honda.
Honda qui nous dit... La question, c'est est-ce que ça aurait été différent ou pas ?
Honda, il n'y a pas de raison que ce soit différent. Non, avec Brawn à la tête, il n'y a pas eu de grand changement. La voiture est la même. Enfin, c'est la voiture qu'ils ont designée pour la course. Donc, il n'y a pas vraiment...
C'est qu'ils auraient eu un moteur Honda.
Là, voilà.
Ouais, voilà.
Mais sincèrement, je ne suis pas persuadé que le moteur représente encore beaucoup... F1 maintenant.
Maintenant,
contrairement à quelques années où on savait que, par exemple, BMW faisait un des plus puissants du plateau, je crois que maintenant, ils se valent tous, quoi.
Bah, il y avait encore celui de Renault qui était un petit peu en dessous.
Tout à fait.
Mais bon, maintenant, il a pas le temps de courir grâce à Piquet. Voilà, donc c'est... Ça fait plaisir à tout le monde. Je pense que tout le monde est vraiment été content de cette course.
Et je pense que dans le paddock aussi, ça fait plaisir à tout le monde de voir Button s'imposer et Brawn aussi.
Et un peu à l'image de Vettel l'année dernière en Italie. Là, c'est pareil, c'est un peu la belle histoire. Mais je pense que s'il commence à gagner un petit peu trop, les gens seront moins contents.
C'est clair.
Ouais.
Hein, on a déjà des procédures de pour annuler les résultats, etc. un peu partout. Donc,
je pense que dans tous les cas, même si on déclare après les diffuseurs non conformes, on maintiendra les résultats. Ils seront pas annulés. Ouais. Ça serait quoi qu'avec la FIA.
Ah ouais, non mais ça, c'est un problème. Ils peuvent tout nous faire. Hein. Donc, Button pour un beau doublé, parce qu'avec l'abandon de Kubica et Vettel, c'est Barrichello qui est deuxième. Barrichello qui se sort du diable vauvert d'une course catastrophique.
Ouais.
Parce que quand même il a torché son départ, mais derrière aussi il a pas toujours été très top. Pour Barrichello c'est quand même une course de valet de course, hein, une saison de valet de course qui s'annonce pour lui.
Faut voir.
Parce que.
Faut voir.
Toi tu penses qu'il peut par moment donné lutter avec Button?
Ouais. Oh, bah, ça s'est quand même bien bataillé pour la qualif déjà, hein. Ils étaient assez proches.
Oui, hein.
Pourquoi pas.
Par le passé,
je pense que si quelques courses sous la pluie, je vois plus Barrichello devant Button, non? Quoique je dis ça en gris, il a gagné sous la pluie, mais. Dis-moi, c'était pas du full wet non plus, hein, quand il a gagné, hein. C'est plus qu'il avait changé quand il fallait ses pneus, etc. Tandis que Barrichello, des courses sous la pluie, notamment sa première en Allemagne, il l'a gagné...
En pneus secs.
Oui, en pneus secs en plus.
Mais bon, Button, c'est un Anglais, hein, faut pas l'oublier. Donc la pluie, ça le connaît.
C'est vrai.
Donc voilà, pour le classement de la course. Après, on fera un petit bilan, je pense, pas équipe par équipe, mais un petit peu pour voir... ce qui a été décevant et pas, pour voir ce qu'on a oublié. Donc en première position, Jenson Button, qui a bouclé les 58 tours du Grand Prix en 1h34 minutes. Juste derrière lui, Rubens Barrichello. Pour fermer le podium, Yarno Trulli, puis Lewis Hamilton, puis à nouveau Yarno Trulli. Quatrième position, donc après la disqualification de Lewis Hamilton, qui s'était classé quatrième. L'appareil, belle performance d'Hamilton.
Oui, le pire, oui, c'est.
Voilà, il fait pas une course fantastique parce que franchement, il est sur McLaren et qu'il vaut mieux. Mais il a été présent. Voilà, il passe entre les gouttes, donc c'est une belle satisfaction pour l'équipe.
C'est les grands pilotes, hein. Les grands pilotes, mal placés, et au final, ils arrivent à faire un bon résultat, quoi.
Voilà. Quatrième place pour Timo Glock, cinquième place pour Alonso.
Pareil.
Tout à fait. Petite déception en sixième place, Nico Rosberg.
Grosse déception, ouais.
Parce que après avoir dominé les essais, déjà les qualifs étaient une déception et en plus la course a été relativement anonyme, je trouve, hein, pour Nico Rosberg.
Ouais.
Et puis là, on a un petit doublé à la sortie des points entre Buemi qui marquait, alors avant la disqualification, qui marquait son premier point, et puis là qui a marqué ses deux premiers points.
Ouais, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Hein.
Pour qui?
Bah pour Buemi, hein. Parce que quand on voit que Bourdais, il a fini à cette position l'an dernier, on voit ce qu'il a fait après.
Mais c'est justement le truc qu'il faut retenir avec aussi Melbourne, c'est que Melbourne, ça reste quand même un circuit très atypique, que les courses ont tendance, hein, je crois qu'on a des chiffres avec Christophe sur l'ensemble sur les 15 dernières années, je crois que on a une dizaine de fois, c'est le vainqueur qui a été champion, ou l'équipe du vainqueur qui a été champion. Mais c'est pareil par rapport au reste de la saison, c'est pas non plus révélateur et quand on voit que Ferrari réussit pas souvent sur l'Australie et que pourtant ils sont tout le temps au top en Australie, y a pas à s'inquiéter. Et Bourdais donc avec la disqualification de Trulli puis de Hamilton, prend un point quoi qu'il arrive. Ah dis donc, il me parle. Une heure. Ah salaud. Mais hey, c'est la faute à qui? Vous parlez trop. Pour tout vous dire, là, sur MSN, il y a Enzo qui me dit une heure. C'est pas vrai. 47 minutes et 35 secondes.
Ah, mais j'ai pas dit que ça faisait une heure. J'ai dit qu'on tiendrait jamais les une heure.
Mais tu vas voir, oui, on va les tenir. J'en suis au bas de ma première page. On va les tenir. Donc,
chers auditeurs, il n'a que 10 pages.
Ensuite, en 9e position, Adrian Sutil. Les Force India ont été plutôt pas mal, je trouve. C'est pas non plus une révélation, mais je trouve qu'ils ont été mieux que l'année dernière. Pas difficile en même temps. Nick Heidfeld, décevant 10e. En même temps, c'est Nick Heidfeld. Hein. Fisichella, 11e. Mark Webber finit à un tour. Et puis, on a les abandons. Donc, Sébastien Vettel sur accrochage. Avec Robert Kubica, Kimi Raikkonen sur différentiel, comme tu le disais, Enzo. Felipe Massa sur suspension, mais bien sûr. Nelson Piquet sur tête à queue, ça on avait remarqué. Ah ouais. Kazuki Nakajima sur accident. Et Heikki Kovalainen sur accrochage. Tiens, il a été disqualifié.
Ah bon? Bah oui, parce que c'est l'équipe McLaren qui a été disqualifiée.
Ah, carrément.
Ah, d'accord.
Oui.
Bon, ça change pas grand chose pour lui.
Ouais, voilà.
Ouais, il était disqualifié, mais il a eu un accrochage. Voilà. C'est très drôle.
Quand même, faut noter un truc, parce qu'on l'a souligné au Grand Prix de Monza l'an dernier, mais c'est la première victoire d'un moteur Mercedes client.
Ouais.
Ah ouais.
Et puis en plus, il paraît que là, avec l'affaire Hamilton, il paraît qu'il y a une réunion là qui va s'organiser entre le chef de Mercedes, le chef de McLaren et les responsables de l'équipe, et que je sais plus qui a été suspendu cette semaine. Ça pourrait très bien ne pas être le seul. On peut être envoyé Ron Dennis.
Mais il y est déjà plus.
Ouais, mais définitivement, ils vont l'interdire de stand.
Mais il y était pas.
Il était pas à Melbourne.
À Melbourne. Ah non, du tout.
Non, ouais, il n'était pas là.
Il n'avait pas annoncé qu'il serait à Melbourne et...
Non. On ne l'a pas vu. Ah, on le verra peut-être en cours de saison, mais pas à Melbourne.
Le mensonge chez les hommes de McLaren est une culture. Donc, du côté des Français, au niveau de la course, on a parlé de Bourdais. Bon, bah, petit week-end pour Bourdais. Mais pareil, il est là, quoi.
Oui.
Il fait la course qu'il faut faire. Il faut quand même se rappeler que c'est Toro Rosso, même s'ils ont gagné l'an dernier, ça reste une petite équipe. Donc voilà. Pour Renault.
Bah, Piquet fidèle à lui-même, Alonso aussi.
Voilà.
Chacun dans son domaine.
Ouais, voilà. Ouais. Bah, c'est bien dit. C'est beau ce que tu dis.
Chez Renault, on fait le grand écart, quoi.
C'est, c'est comme le museau avant.
Voilà.
Plus c'est gros, plus ça passe.
On ratisse là.
Donc, pour revenir vite fait en quelques chiffres sur le Grand Prix d'Australie et sur l'Australie en général, je crois, Shinji, que tu as fait quelques petites recherches.
Oui, il y a des chiffres, des statistiques. Donc, je vais vous édicter les chiffres. D'abord, le chiffre 1. Donc, pour Brown, on en a parlé. C'est la première course, première pole. Première victoire, premier doublé. Alors, pour un...
Première course.
Oui, bah, je l'ai dit, première course.
Ah, pardon.
Pour monter à 77, le Grand Prix d'Argentine avec l'équipe Wolf, pour voir une nouvelle équipe gagner sa première course.
Pour de la mémoire, première... Wolf, ils ont gagné qu'une course aussi, hein. Non?
C'est pas impossible.
Je vais te dire ça tout de suite.
Tu te fais prophète?
Non. Non, 3 victoires, autant pour moi.
Et sinon, pour une première pole, pour une première équipe, il faut remonter au Grand Prix d'Afrique du Sud en 1970 avec March.
Yes.
Sinon, le chiffre 1 aussi, bah, c'est Brown GP et Jenson Button qui sont à la tête de leur championnat respectif pour la première fois.
Ouais.
1, c'est aussi le premier Grand Prix et les premiers points pour Sébastien Buemi. Pour l'anecdote, plus aucun Suisse n'avait marqué de points en F1 depuis Marc Suré au Grand Prix d'Italie 1985.
Ouais. C'est un autre âge.
Je connaissais même pas. Ah. Comme Suisse, je connaissais Regazzoni, qui était pilote de Ferrari, mais c'est tout quoi.
Ah, on peut aussi dire le chiffre 1, c'est le chiffre du champion du monde. Ça fait 2 années de suite que le champion en titre, je vais pas dire foire sa course parce que Hamilton n'a pas nécessairement foiré sa course, mais que dans l'histoire et dans les classements, ils sont absents des classements.
Ouais. Donc après le chiffre 1, on passe au chiffre 2. 2 comme la deuxième victoire de Jenson Button. Après, la fameuse victoire de Hongrie en 2006 sous la pluie.
Ah, puis là, c'est la première à la régulière, quoi.
Ah oui, là, c'est vraiment indéniable, on peut rien dire vraiment.
Je crois que Button, c'est le 50e homme à mener du début à la fin, le Grand Prix. Et si je me trompe pas, Raikkonen l'a fait 3 fois dans sa carrière, Alonso l'a fait 2 fois, et puis je crois que Hamilton l'a fait 1 fois, ça devait être à Silverstone. Et puis je sais plus qui d'autre l'a fait 1 fois. Massa, je crois.
C'est aussi la deuxième fois seulement qu'il marque des points à Melbourne.
Ouais.
Donc habituellement, c'est pas vraiment un circuit qu'il a réussi.
Bah habituellement, il pilote une Honda.
Ouais. Non mais même avec une Honda, il aurait pu
marquer
plus souvent des points.
On est quand même en train de sous-entendre que Honda c'est de la merde et que Brown c'est super bien alors que c'est la même chose.
C'est vrai.
À part le moteur.
Sinon, 2, c'est aussi le deuxième meilleur tour en course pour Nico Rosberg. Donc comme quoi, il n'a pas été forcément super bon en course, mais sur un tour, il a un peu confirmé les essais libres.
Bah, il y a 3 ans, il faisait signer le meilleur tour en course pour son premier Grand Prix, d'ailleurs.
Ouais.
Voilà. Alors, est-ce que c'est bon signe?
C'est le 130e de Williams, c'est le deuxième de Toyota.
Ouais.
C'est aussi seulement la deuxième fois que Lewis Hamilton ne s'est pas qualifié en Q3. La première fois, ça devait être à Monza l'an dernier.
Le tout en 2 ans et 1 Grand Prix.
Ouais.
Excusez-moi.
Et il n'était jamais parti aussi loin que la 18e position. Il y a même
encore... Et là, il est parti 18e.
Voilà. Il y a même encore, je crois, des positions dans les points il n'a jamais terminé à certaines positions dans les points.
Ouais, je crois que c'est 6e et 7e, voilà. Je crois.
3. C'est Sébastien Bourdais, 3e fois qu'il rentre dans les points.
Seulement ?
Bah ouais.
Bah, je m'attendais à plus, je sais pas pourquoi.
7. C'est les 7 voitures qui étaient équipées du KERS. Donc les 2 Ferrari, les 2 McLaren, les 2 Renault et la BMW de Nick Heidfeld.
Ouais, parce que Kubica est trop lourd.
Ouais. Je suis pas sûr que ce chiffre va augmenter au cours de saison.
Si, je pense.
Oui, parce que je pense que Toyota va introduire le sien, parce que Toyota en a besoin, surtout pour faire la différence par rapport à Brown. Brown, ils aimeraient bien l'acheter, mais apparemment c'est pas dans le package de Mercedes. On sait qu'il y a le KERS de Williams, je lisais ça dans F1 Racing, le KERS de Williams est vraiment un KERS très particulier, techniquement, et il est pas très fiable, mais si jamais il devenait fiable, ça serait sans doute... un KERS révolutionnaire pour la F1, donc
ils vont nous refaire le coup de la suspension active.
Ouais. Je sais pas,
sortir un truc de fou.
C'est une espèce de toupie en fait, c'est-à-dire que pour le moment l'équerre c'est un système à batterie, mais en fait ce sera un système à toupie, donc ça serait comme comme une dynamo.
Donc il y aura moins de batterie.
Il y aura moins de batterie, donc le système sera léger. Mais pour le moment c'est pas au point. Et Williams a même racheté une entreprise d'électronique où ils ont investi pour pouvoir travailler sur le KERS, donc c'est Williams, c'est sûr, on verra le KERS à un moment donné.
Alors, autre chiffre, c'est le 16e podium de Jenson Button. Le premier depuis le Brésil en 2006.
C'est verbal.
Et il n'avait plus été en pole depuis l'Australie 2006.
Comme quoi, l'Australie lui rossit quand même un petit peu bien. Ouais.
Qui est-ce qui n'avait pas été en pole depuis l'Australie 2006?
Button.
Button.
Ah oui, oui, pardon, oui.
Bah, ça m'étonnait, moi, quand j'ai lu ça aujourd'hui, Button en pole en 2006, je ne me rappelais pas.
Ensuite, 28,5. C'est l'âge moyen des pilotes cette année. Il était de 29,3 l'an dernier. Et avec la retraite de David Coulthard et l'arrivée de Sébastien Buemi, donc ça a baissé. Ça aurait pu baisser encore plus si
Barrichello était parti.
Donc 50, tu disais, c'est le 50e, Jenson Button est le 50e pilote de l'histoire à mener un Grand Prix de bout en bout. 68. Donc c'est la 68e victoire pour un moteur Mercedes. C'était la 71e pole du motoriste allemand. 200, c'était le 200e départ en F1 de Jarno Trulli. Il est le 10e à atteindre ce nombre dans l'histoire de la F1 après Rubens Barrichello, Ricardo Batrese,
De Angelis,
Michael Schumacher, David Coulthard, Giancarlo Fisichella, Gerhard Berger, Andrea
Beguer. Gerhard Berger.
Gerhard Berger.
Je te taquine.
Nelson Piquet et Jean Alesi.
Et Andrea De Cesari, c'est le seul à pas avoir gagné dans cela.
Ouais.
Ouais. Et y a que deux. Peut-être.
C'est le pilote qui a eu le plus de grands prix sans victoire.
Et enfin, un dernier chiffre. Attention, celui-là, je suis allé le chercher très très loin. C'est 40 millions. Alors 40 millions, ce n'est pas le salaire de Kimi Raikkonen. Non, 40 millions, c'est le nombre de kangourous qu'il y a en Australie.
Ça, c'est la bonne statistique. Ah,
voilà. Ça. C'est-à-dire que si on file un kangourou à tous les Australiens, eh ben, il en reste la moitié parce qu'il y a 20 millions d'Australiens.
Alors, il y avait aussi un...
Intéressant comme statistique, ça.
Une statistique était assez intéressante quant au podium. Alors, je sais plus ce que c'est. Ah,
ça aussi, c'est intéressant.
Ah, ouais, ça m'énerve, ça. Alors, 2008, Australie. Voilà, ok, ça va me suffire. L'année dernière, on avait un podium plutôt jeune avec la victoire de Hamilton en Australie. Si je le retrouve, ça sera pratique. Voilà. Je le retrouve. Ouais. On avait un podium super jeune puisqu'on avait... Enfin, ça a pas m'aider, ça, tiens. Saleté. Oh, ça plante.
Ah, je suis énervé. J'ai les chiffres.
Alors, je suis embêté avec Mozilla Firefox parce qu'apparemment, il y a un gros plantage en ce moment chez Firefox. Et moi, j'ai plus Firefox qui marche.
Ah...
De trucs gratuits. Donc c'est quoi? Alors oui, on a... Vas-y, les chiffres.
Alors,
s'il te plaît.
L'an dernier, la moyenne d'âge, c'était 25 ans, 7 mois et 1 jour.
Et encore, ça avait été Hedfeld.
Ouais.
Ouais, encore.
Et donc cette année, la moyenne d'âge était de 33 ans, 7 mois.
Et encore, il y avait Barrichello.
Il y avait Barrichello. si on prend... Les podiums depuis 15 ans. Je dis bien depuis 15 ans. 1994. Et ben c'est quand même le 4e podium le plus vieux.
Waouh.
Ouais. C'est fou. Ah mais là c'est qu'on a eu une espèce de flashback en. Enfin quoi que non. Trulli et Button, ils ont encore le bon âge. Celui qui fait augmenter la moyenne, c'est Barrichello.
Ouais, c'est clair.
Donc, bah voilà pour les chiffres, c'est tout, Shinji?
C'est tout.
Au championnat, nous avons donc. Que je retrouve le championnat.
Je ne peux pas faire manger avec Cindy qu'avec nous.
On me parle, je ne sais pas si vous entendez, mais.
Tu préfères manger avec Cindy qu'avec nous.
On est en train de me dire, tu préfères manger avec Shinji qu'avec nous.
Non, attendez.
Ma gueule, quoi.
Moi j'entends rien, j'ai le casque.
Je vais avoir la même audition. Hein.
Pourtant on avait dit 40 minutes. Hein.
Ouais.
T'es trop fort Enzo, tu lis en nous. Donc au niveau du classement championnat, bah il y a pas trop de différence. Hein. On a Button premier avec 10 points, Barrichello 2 avec 8, Trulli, Glock, Alonso, Rosberg, Buemi, Bourdais. Première fois que Button mène le championnat.
Oui, bon, je l'ai dit.
Ah, tu l'as dit?
Oui.
Non, ça, quand on perd du temps, on va peut-être deux fois la même chose.
Ah, j'en ai marre. Côté constructeur, le doublé de Brown Grand Prix bah, leur donne déjà une belle petite avance au championnat avec 18 points. Toyota, après la requalification de Trulli, à 11 points et en deuxième position. Renault, troisième avec 4 points, donc déjà les écarts sont importants. Toro Rosso et Williams se partagent la quatrième place avec 3 points. Les gros bras, Ferrari et McLaren repartent avec un 0 pointé, même si McLaren aurait pu repartir avec 6 points.
Ouais.
Comme quoi, c'est pas bien de mentir. Donc, est-ce qu'on peut penser que Button et Brown Grand Prix peuvent être champions?
Oula!
C'est trop tôt pour dire ça.
Ouais.
C'est trop tôt?
Tu m'emmèneras pas sur ce terrain glissant.
Ah mais quand même, là ils ont quand même montré qu'ils étaient plutôt fiables et que niveau performance, même s'il y a le coup des diffuseurs,
si tu prends Vettel au Grand Prix d'Italie de façon isolée, uniquement ce Grand Prix, tu te dis bah oui ils peuvent être champions du monde.
Voilà.
Ils auraient pu, ils ont ultra dominé une course, ça veut rien dire une course.
Ouais.
Ils paraissent fiables et rapides, il y a pas de raison qu'ils soient plus fiables et plus rapides.
Mais... Ouais, mais il y a quand même derrière quand tu que, si on compare par si on compare par rapport à Vettel il y a la saison derrière. Donc on peut expliquer par le background. Là quand on prend les antécédents de Brown Grand Prix, quand on voit les essais qu'ils ont fait où ils ont été impressionnants, c'est ça, c'est même mettre en relief leurs résultats en course. L'Australie c'est pas étonnant. Est-ce que maintenant eux ils peuvent envisager jouer le titre?
Prends l'année 2005, Renault est parti ultra fort. Par contre, en point de vue développement derrière, ils ont eu un peu de mal et ils ont fini. Je vais me fâcher avec les supporters d'Alonso, mais en jouant l'épicier sur les dernières courses. Mais tout dépend s'ils ont les moyens de continuer à développer la voiture, quoi.
Oui.
Ouais. Mais en même temps, cette année, le développement est pas vraiment important parce que cette année, wow. On sait que les essais sont limités, on sait que les souffleries sont l'usage des souffleries est aussi limité à, je crois que c'est 16 heures par jour. Donc.
Et tu crois que pendant l'été, les 3 mois de pause, les ingénieurs ils vont aller sur la plage?
Non, mais d'ici l'été, ils auront peut-être pris suffisamment d'avance.
Regarde, McLaren annonce déjà un nouveau package pour l'Espagne, je crois. Un nouveau package aérodynamique parce que ils ont vu qu'ils étaient à la rue. Donc, je veux dire, même si les essais sont, tout le monde travaille sur les nouveaux diffuseurs là. Des fois que
ouais.
Ils attendent même pas de savoir si la FIA va les autoriser ou pas. Et ils travaillent déjà tous dessus, quoi.
Ah, puis apparemment, ça va coûter cher.
Et ça va coûter cher, donc je pense
parce que c'est un anonyme de chez Ferrari qui a dit que eux, ça allait leur coûter à peu près 20 millions. Donc bonjour l'économie d'énergie, les frais de dépenses. Et que en plus,
ça c'est
bon. Ouais, je sais. Ah c'est bon. Ouais, je suis malade, je sors de 5 jours, j'ai travaillé 13 heures par jour, hein. Ah il est méchant avec moi.
Mais non.
Je suis triste là, je pleure maintenant.
Mais c'est 20 millions que le diffuseur ou 20 millions le diffuseur et les changements qu'il y aura peut-être sur l'aéro.
Ils peuvent tout
refaire. Voilà, c'est-à-dire que c'est ce que Ferrari explique, c'est que eux ils expliquent que c'est quasiment une nouvelle voiture qu'il faut faire.
C'est ce qui
parce que la voiture, elle a pas été designée pour ça, donc il faut refaire quasiment une nouvelle voiture pour intégrer ce diffuseur.
Mais je pense pas que l'écart qu'on ait vu en Australie entre Brown Grand Prix et les autres voitures ne vienne que du diffuseur. Je pense qu'ils sont ils ont aussi conçu une superbe voiture. Quoi. Et c'est ce qui me ferait de la peine si à eux, on leur disait les diffuseurs, on les interdit. Déjà parce qu'ils n'ont pas forcément, eux, les moyens de refaire une voiture derrière. Et en plus, ils perdraient les autres avantages qu'ils ont sur leur voiture. Quoi.
Mais en plus, moi, je pense que la FIA ne pourra pas interdire parce que, d'abord, légalement, il y a un vide sur les diffuseurs, donc ils sont effectivement légaux parce que même s'ils sont pas dans la morale et dans la logique du règlement, ils sont légaux. Mais ça va aussi dans le sens de la FIA qui souhaite avoir un truc plus disputé. Et là, tout le monde est content de voir les petites équipes, c'est la revanche des petits contre les gros. Donc moi, franchement, je vois mal le 14 avril. Je vois quand même mal la FIA. Condamné à retirer les diffuseurs.
Je pense pas qu'ils le feront.
Non.
Tout le monde aura déjà engagé les frais. Au pire, ils vont régulariser ça pour 2010. Mais puis en même temps, c'est bon. Hein, faut aussi laisser un petit peu de liberté à l'ingénierie. Moi, quand j'entends Renault et c'est surtout Renault, quand j'entends Briatore qui chiale avant le Grand Prix, nous on n'a pas fait ça, c'est ce que je disais dans l'émission de pré-saison, hein, faut avoir le courage et l'intelligence de flirter avec la ligne jaune. Ferrari a été champion en partie parce qu'ils ont flirté avec la ligne jaune, parce qu'on se souvient tous à une époque qu'ils ont réussi à faire un système d'antipatinage qui était légal, mais qui n'était pas franchement très moral. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a ramené l'antipatinage. Et voilà, c'est parce qu'on flirte avec les lignes, c'est aussi ça le but du jeu de la compétition, c'est aussi de flirter avec les lignes sans les dépasser.
Ça fait.
Donc voilà. Et inversement, s'il est trop tôt pour parler pour Button et Brown, est-ce qu'on peut déjà, envisager quel sera le rôle exactement, on va dire, des quatre grosses équipes de l'année dernière, à savoir... Qu'est-ce qu'il m'a écrit Enzo?
À savoir, j'essaie de le faire direct, discret moi.
qu'est-ce qu'on peut déduire sur Ferrari, Renault, McLaren et BMW?
Pareil, rien.
Bon alors, le suivant, allez hop.
Comme Lucas, son émission.
Non, mais c'est pas grave.
Mais les quatre vont pas soudainement redevenir au top. Hein.
Non.
Il y en a qui vont se casser la gueule.
Des grilles, par exemple.
Ah, tout ça y est, maintenant. Attends, frère, c'est marrant. La semaine dernière, tu nous dis que McLaren, ils sont en train de cacher leur jeu.
C'est banané.
Oui, en même temps, on est fort en pronostic.
C'est vrai que des quatre, McLaren, peut-être les plus mal barrés.
C'est vrai.
En même temps, c'est presque dans leur habitude, hein, le fait d'alterner les bonnes et les mauvaises voitures.
Comme quoi, comme quoi, un jour, tout se paye.
ce qui était exceptionnel, c'était presque d'avoir deux années de suite une bonne McLaren.
C'est vrai.
Ce qu'on peut dire déjà, c'est que, il y a McLaren qui est pas sorti de l'auberge avec sa voiture. Parce que en même temps que eux vont progresser, les autres vont progresser aussi. Ferrari apparemment, là ça fait quand même c'est la troisième saison où la fiabilité de la voiture est pointée du doigt. Je pense qu'on va y revenir plus tard dans les cartons rouges du SAV, mais c'est quand même pas enthousiasmant pour la saison et voir tous ces problèmes sur la Ferrari à la fois en essai mais en plus en course, c'est un peu inquiétant. Renault, on ne sait pas trop où ils sont, on ne sait pas trop ce qu'ils font. C'est pareil, on a quand même l'impression, un peu comme McLaren, que l'équipe est un peu à la masse. Même si c'est moins flagrant parce que l'équipe était moins haute l'année dernière que McLaren. Et que cette saison, ils sont quand même un peu meilleurs que McLaren, donc ça reste dans la continuité. Et puis BM, c'est le gros point d'interrogation.
Ouais, je pense qu'ils seront bons. On l'a vu avec Kubica, hein.
Ouais, mais je sais pas. J'ai dû, enfin, je sais pas. le fait d'avoir un pilote avec Kerr, c'est sans Kerr, j'ai l'impression que pour la saison, ils vont avoir tout le temps leurs œufs dans des paniers différents et je suis pas sûr que ça va payer sur le long terme.
Wait and see.
Voilà. Donc on va passer directement au drive-through du week-end, à nos cartons rouges. Moi je vais parler vite fait du mien parce qu'on en a déjà parlé. Moi je mettrais une grosse pénalité à la FIA pour avoir pénalisé Vettel.
Ouais.
Voilà, je reviendrai pas dessus. Si jamais je devais prendre un truc de substitution, j'avais noté quelque chose, je sais plus quoi. Je mettrais un carton rouge à Red Bull pour avoir laissé Vettel avec sa roue sur le capot. L'avoir laissé tourner sur la piste, je trouve ça dangereux.
Et pour le coup, la pénalité qu'ils ont eue en argent, elle était justifiée. En argent.
Je crois qu'ils ont eu $50,000, donc
elle était justifiée.
Mais ça, c'est l'exemple, justement. C'est-à-dire que c'est ce que disait Moncey ce matin dans les essais du Grand Prix de Malaisie. Faut taper avec le pognon. Ça sert à rien de donner 10 places à Vettel, faut taper avec le pognon.
Mais il faudrait peut-être les gonfler aussi. Parce que c'est vrai que bon, 10 000 dollars, 20 000, 50 000 dollars, quand on voit les budgets. Ils ont aussi sorti. Ça m'a jamais sorti pour une équipe de sport il y a 2 ans.
C'est vrai. en ce moment, les caisses sont pleines, donc ça va. Donc ensuite, je sais pas, on va partir sur Enzo, tiens.
Mon carton rouge.
Ouais, ton drive-thru.
Ça sera pour quelqu'un qui était pas là. C'est pour Jean Todt parce qu'il manque trop à la Scuderia, quoi.
C'est pas faux.
Mais il manque trop sous quel sens?
J'ai franchement l'impression de retrouver les travers de la Scuderia des années 90, justement avant qu'il arrive. Quand justement ils étaient un peu désorganisés ou la fiabilité était pas là, etc. Quoi.
Ouais, tu parles de la fameuse gestion à l'italienne. Voilà, quoi.
Tout à fait.
Justement, même Jean-Paul de parti, la logique aurait voulu quand même qu'ils essaient de faire en sorte de continuer.
Ce qui est bizarre, c'est que Dominique Ali, que j'aime beaucoup, hein, c'est un mec qui est du Serail. Enfin, il a été élevé par Jean Todt. Il a les méthodes de Jean Todt. Il a la manière de travailler de Jean Todt. Et c'est vrai que c'est bizarre que cette équipe tout d'un coup tombe dans ses travers. Et je pense que les deux titres constructeurs qu'ils ont eu ces deux dernières années après l'argent Todt a un peu masqué la réalité des choses.
Tout à fait. C'était l'écran de fumée. Hein.
Ça fait 3 ans. De toute façon, à chaque fois, tous les ans, on parle de la fiabilité des Ferrari. Hein.
Voilà. Ouais. Donc, c'est vrai, c'est un bon drive-thru.
Voilà.
Et toi, Shinji, ton drive-thru?
Alors, c'est sur le Kers. Alors, c'est pas sur son principe que je trouve bon, mais c'est le fait que ça soit pas obligatoire, le fait qu'il y en ait qu'il l'ait, le fait qu'il y en ait qu'il l'ait pas. Parfois, j'entends dire sur cette course, oui, il y a plus d'équité. Mais en fait, non. Il n'y a pas d'équité, sauf que c'est renversé.
Voilà.
Donc c'est vrai, c'est bien, on a vu des dépassements. Mais bon, un dépassement d'une voiture avec un Kerr sur une voiture qui en a pas. Bon, quand t'as 80 chevaux en plus, est-ce que c'est ce qui est pas normal, c'est de pas le réussir dans ce cas-là.
Mais c'est ça le truc, c'est que on a bien vu pendant la course. Moi, j'ai été un peu étonné, j'ai même été un peu déçu. On a eu beaucoup de dépassements.
Ouais.
Mais j'ai trouvé les dépassements super faciles.
C'est vrai.
Et quand on voit, je sais plus qui, quoique Hamilton a failli nous en faire une belle, je crois que c'est sur Piquet, où il a un petit peu trop forcé et il a failli se taper Piquet là dans l'un des derniers virages. Le Kers donne peut-être trop de confiance, donc le risque de donner des accidents, mais quand ça passe, ça rentre comme dans du beurre, quoi. Voilà. Y a rien à faire. Je vois le dépassement en sortie des stands de Raikkonen. Donc Raikkonen qui a refait le plein, qui a les pneus froids et qui sort des stands et qui dépasse Rosberg, qui a quand même été le pilote le plus rapide du week-end. Il dépasse Rosberg, mais les doigts dans le nez et puis les orteils dans le derrière. C'est un truc de dingue.
Pratique pour piloter ça.
Ah, ça, mais ça, c'est, ils lui ont moulé un baquet spécial.
D'accord. Il y a beaucoup de pilotes qui se sont plaints aussi que, en fait, c'était une arme pour dépasser, mais aussi une arme pour ne pas se faire dépasser.
Ouais.
Et
oui.
Ceux qui l'avaient pas, justement, n'avaient aucune chance de dépasser une voiture qui l'avait, étant donné que...
Mais c'est même pire, parce qu'on a vu, je crois que c'est Massa, qui avait le Kers, suivi de Glock, lui n'avait pas le Kers, mais la Toyota était intrinsèquement plus rapide que la Ferrari ce week-end, et il a passé un nombre de tours, je crois que c'est 5 ou 6 tours derrière Massa, et en fait dès qu'il arrivait dans la ligne droite des stands, Massa donnait un coup de Kers, et alors Massa il fonçait au bout de la ligne des stands, et pendant le tour Glock lui revenait dessus,
ouais.
Et ça a quasiment cette espèce d'effet yo-yo et cette espèce de cette impuissance à savoir que tu pourras pas le dépasser. Résultat, Glock il a fait un tête à queue derrière Massa et il s'est éliminé de la course, quoi.
Ce qui comme ajustement peut-être pour les années futures serait peut-être d'avoir un système qui fait en sorte qu'on ne puisse pas l'activer pour empêcher d'être dépassé. Et comme ça, s'il y a deux voitures qui l'ont, on aurait plusieurs dépassements sans arrêt, des dépassements, puisque celui qui est devant, en fait, ne pourrait pas empêcher un dépassement par ce biais-là, quoi.
Ouais.
Bon.
Mais on peut aussi faire un système un peu à ce qu'il y avait en chambre car. C'est-à-dire que là le principe, c'est que par tour, il y a, je crois, c'est 6 ou 8 secondes, je sais plus.
6 secondes, un peu comme ça.
C'est 6 secondes. Je pense tout simplement faut définir une durée pour toute la course.
Tout à fait.
Ouais. 60 secondes pour toute la course. Les mecs, ils ont 60 secondes. S'ils veulent l'utiliser sur 3 tours pour claquer un temps et prendre le large, ils l'utilisent sur 3 tours. S'ils veulent l'utiliser pour une manœuvre de dépassement, mais dès qu'ils l'ont plus, ils l'ont plus. Et il faut surtout attendre. Moi, je pense que c'est ce qui sera surtout intéressant, c'est quand il y aura un système unique, que tout le monde l'aura.
Voilà,
Parce que moi, j'ai trouvé le défaut du Kers, c'est que, alors, avec, on a voulu nous rendre le truc plus lisible avec la communication des poids des voitures avant la course. Ce que j'ai trouvé complètement con, parce que ça retirait un brin d'intérêt au départ de la course. On aime bien essayer de deviner les stratégies, enfin, quand on est fan.
Non seulement ça enlève du suspense, mais pour les gens qui connaissent pas forcément super bien la F1, c'est illisible. Dire que la voiture pèse genre 665 kilos, c'est bien, mais faut voir ce que ça veut dire.
Ouais.
Faut pas oublier le poids de la voiture. Faut se rappeler que 1 kilo, ça veut pas dire 1 litre. Quelle est la consommation autour de litre d'essence? Enfin voilà quoi.
Et je trouve qu'en fait, on a clarifié les choses, mais là, dans cette espèce de situation où il y a l'histoire des diffuseurs, il y a l'histoire du Kers. On avait en fait trop de paramètres à tenir en compte et on a eu au final une course pas très lisible, pas facile à analyser, même si on peut tirer quelques conclusions. Mais voilà, moi je pense que le Kers fallait pas le prendre à Melbourne parce qu'il apportait pas grand chose à part en course. Je pense qu'en Malaisie par contre le Kers sera plutôt utile, en Chine il sera utile, à Bahreïn peut-être qu'il sera utile, à Monaco il faudra absolument s'en priver. Parce qu'il servira à rien. Voilà, on peut se demander, l'intérêt. Moi, j'ai eu mon père ce matin qui m'a demandé de lui expliquer le Kers. Mon père, vous l'avez entendu tout à l'heure. Et
pour manger d'ailleurs.
Ouais, bah non, je leur ai dit de manger sans moi. Et quand je lui ai expliqué, il m'a dit ouais, c'est comme les champignons dans Mario Kart. Et ça m'a fait rire et en même temps j'ai trouvé que ça correspondait bien et que c'était bien l'image et voilà, même s'il y a des efforts qui sont faits sur je trouve sur l'animation de la télé où on a souvent vu la barre de charge du Kers,
la petite pile là,
ouais.
Mais je trouve qu'effectivement quelque chose où le pilote aurait à gérer une quantité précise pour toute la course, ça serait plus intéressant.
Tu remarqueras, il y a un truc dont on n'a absolument pas parlé. C'est l'élément mobile.
Oui.
Sur l'aileron avant.
Il l'utilise pas.
Ça ne sert à rien.
En fait, je pense que c'est trop compliqué pour les pilotes et ils s'en servent très peu, en fait.
Mais je pense que.
Déjà, j'ai réglé le truc.
Mais je pense que pour le moment, ils s'en servent pas parce que justement, il y a trop d'écart. Le mec, il a pas besoin de manipuler son aileron avant quand il sait que lui, il a le Kers et que le mec devant, il l'a pas. Donc il va pas se faire chier à cambrer ses ailerons avant pour avoir plus d'appui ou moins d'appui, en sachant de toute façon quoi qu'il arrive, même avec deux briques sur l'aileron avant, grâce au Kers, il va le dépasser. Donc je pense qu'on verra ça quand tout le monde aura le Kers, et je pense que les pilotes vont peut-être plus utiliser ce truc-là. Même si ça n'a pas empêché qu'il y ait des éléments mobiles qui ne soient pas réglementaires.
Oui.
Pense au Toyota.
C'était l'aileron arrière.
Donc, voilà. Ouais. Donc sur le Kers, moi j'avais noté une phrase pendant la course. J'ai fait comme Enzo, j'ai pris des petites notes. Et oui, j'ai mis... Ah bon?
Mais oui, on prend tous des notes. On est sérieux.
Qu'est-ce qu'on est...
sur le Kers... pas avec moi, là.
La vache. Sur le Kers, j'ai noté, de toute façon, quand les écarts sont faits, ils sont faits. Et on l'a vu avec Button.
C'est qui a dit ça?
C'est moi qui ai dit ça.
Ah bon.
Ouais, voilà. Sauf quand il y a la safety car. Mais on sait très bien que là, en Australie, traditionnellement, il y a la safety car.
Ouais.
Mais en Malaisie, par exemple, où les dégagements sont énormes, si une voiture sort dans les dégagements, on va pas appeler la safety car.
Non.
Donc, il va y avoir pas mal de Grands Prix cette saison où la safety car jouera aucun rôle. Donc, moi, c'est voilà, je pense qu'on a bien vu avec Button. Hein. Button, il a fait la différence au départ. Une fois que la différence elle était faite, les mecs ils pouvaient se pointer avec leur Kers, hein. Pour le rattraper, ils pouvaient toujours courir. Donc voilà.
Ok.
Sur le Kers.
Ok.
Désolé. Il y a une petite rubrique aussi. Deux petites rubriques. Une petite rubrique d'abord pour parler de en NASCAR. Moi j'aime bien. C'est dans la NASCAR, il y a vers la fin de la course, il y a pour le sponsor, pour un des sponsors, il y a le Fox, le mouvement de la Fox. Voilà, c'est le dépassement de la course, c'est le pilote qui a bien récupéré sa voiture, c'est le gros moment de la course. Alors moi je me disais que cette saison, on pourrait peut-être chacun à chaque course. Pendant la course, désigner le moment de la course, le plus beau dépassement, l'action importante de la course à nos yeux. Vous voyez le genre?
Oui.
Oui.
Donc moi je dirais le départ des Ferrari. Voilà. On en a parlé, c'est très joli. On va mettre un coup de Kers.
Voilà.
Parce qu'Enzo vient de me dire qu'on l'attend pour manger. Donc, moi je dirais le départ des Ferrari. Voilà, mouvement de la course. À vous.
Moi je dirais la piquette.
La piquette?
La piquette de piquette.
Ah. Ça, on fera un sondage, on mettra à côté. Donc,
Puis moi je dirais l'accrochage Vettel Kubica. Parce que c'est con quand même de faire ça à 3 tours de la fin.
C'est clair.
C'est con.
Et donc, deuxième rubrique pour finir. La rubrique dont on parlait au début. Le Matt Brown Stop and Go. Cette rubrique pour toute la saison. Donc on verra. Soit on est d'accord, soit on n'a rien à dire. Soit, enfin, peu importe. Même ça se trouve peut-être même une semaine cette saison, on n'aura rien à dire. Moi, en fait, à un moment donné, pendant la course, Matt Brown nous a parlé de Kimi Raikkonen, qui avait donné un coup d'épaule à un caméraman sur la grille de départ.
Un photographe.
Et nous a non, c'était un caméraman cette semaine.
Ah.
Il y a eu l'histoire du photographe il y a quelques mois. Mmh. Et là, apparemment, en Australie, il a aussi bousculé un caméraman de TF1 ou de je sais pas qui. Donc apparemment ça a énervé Matt Brown, et Matt Brown a ressorti une histoire qui avait fait plus de bruit d'ailleurs sur internet qu'à la télé. C'était l'histoire de Kimi Raikkonen qui aurait soi-disant poussé un gamin. Sauf que la vidéo est disponible sur YouTube et compagnie, et que on voit clairement que Kimi Raikkonen ne pousse pas le gamin, mais c'est une femme qui vient voir Kimi Raikkonen pour un autographe et qui coupe la route au gamin et le fait tomber. Donc moi j'ai trouvé quand même très déplacé de la part de Matt Brown de rappeler cette histoire-là, surtout sans réexpliquer derrière tout, enfin sans vraiment dire la vérité. Et j'avais envie de lui dire que des fois il ferait bien de fermer sa gueule. Voilà.
Non mais moi aussi c'est vrai que ça m'avait titillé. Puis ça, c'est quasiment la seule fois qu'il a parlé de Raikkonen de la course.
Bah ça, on peut pas lui en vouloir.
Ah non, il en a parlé une deuxième fois. Il en a parlé une deuxième fois pour nous dire que Raikkonen était redevenu l'ancien Raikkonen.
Ouais.
Voilà, pour nous dire que je Raikkonen s'endormait.
Voilà. Non.
Moi, je n'avais même pas relevé qu'il avait dit ça, en fait. Ça m'a pas
ah choqué. Ouais, non, mais moi, je...
Mais le pire, c'est que ça faisait très hors contexte, quoi.
Oui, mais en plus, c'est ça, je
pense. La course.
Surtout que Raikkonen, on l'a pas vu une seule fois pendant la course. Voilà, il nous a fait cette sortie-là, donc apparemment, il a été touché de ce qui est arrivé à son caméraman. Ça, je le comprends. Mais après, quand on ressort des vieux dossiers, faut aussi se documenter sur les dossiers, puis arrêter de dire des conneries. Moi, j'avais déjà eu l'occasion d'en parler, cette histoire-là de Kimi Raikkonen. Tout le monde s'entend à dire que, bah voilà, c'est comme on disait sur Vettel et Kubica, c'est un accident de paddock, ça arrive, Kimi a pas le temps, une fan qui vient demander un autographe, il y a un gamin qui est victime dans l'histoire. Bon voilà, le gamin il a une bosse, on a l'impression que Raikkonen il a tué quelqu'un, et moi voilà, je voulais dire à Malbranche, ferme ta gueule.
Ça c'est dit.
Ah voilà, ah, non mais donc, ça m'énerve. Ce qui est sûr,
c'est qu'il nous écoutera plus.
Je sais même pas. Mais ouais, j'allais aujourd'hui j'étais sur un site belge et les Belges préfèrent la RTBF à TF1 et pourtant ils ont Bas Lenders etc comme commentateur. Le mec, j'ai appris que c'était un pilote, je sais plus quoi. Et voilà, même TF1, enfin ils préfèrent RTBF à TF1 parce qu'il y a Malbranche, parce qu'il y a Lafitte qui commence à se faire vieillissant et donc les garçons, cette saison sera pour vous. Voilà.
Ah, moi,
donc,
j'ai remarqué un truc, c'est quand il expliquait le Shrek, hein, donc il explique le Shrek très bien.
Le Shrek
et, le Shrek. Et donc il explique tout le principe, hein, donc les 80 chevaux en plus, parce que c'est quand même ça l'idée. Et il précise que ça sert à l'accélération. Alors, d'abord, ça serait quand même très drôle de rajouter 80 chevaux en freinage. Et deux, je suis même pas sûr que techniquement ça soit possible. Voilà.
C'est clair.
De mauvaise foi, mais ça m'a fait marrer sur le coup.
C'est vrai.
Donc, bah voilà, ça c'était pour la course de Melbourne. Je pense qu'on a fait le tour des choses en 1h28 minutes.
Waouh! Wow.
Ouais.
On peut finir là sur les pronostics pour la Malaisie dimanche à demain. La course sera à 8h.
Ouais.
Sera à 11h.
Et plus tard.
Ah ouais, avec cette connerie de nous mettre les courses plus tard. Je vais manger pendant la fin de la course, ça m'énerve.
Ouais.
Quoi que non, je vais encore décaler. Donc, course en Malaisie, bon, on sait déjà qui est en pôle, hein, on sait déjà un peu les résultats, on en reparlera la prochaine fois. Un pronostic en faisant abstraction des résultats qu'on connaît.
Mais tu peux pas. Non mais sois sérieux.
Massa alors.
Moi je peux parce que j'ai pronostiqué avant pour avec Enzo. Donc déjà Enzo et moi on peut. Et puis toi t'es quelqu'un d'intelligent, tu peux quand même faire un pronostic par rétroactivité.
Oh, c'est bien dit ça.
Ah. Ouais, t'as vu, t'as la classe. Hein.
Je sais pas si tu l'as utilisé dans le bon sens, mais
6 ans d'études dont 3 de redoublement. Ouais. Donc alors, qui se lance en premier?
Je suis en train de rouvrir mes pronostics que j'ai faits.
Ah, c'est pas
cool. Écoute, avant j'aurais dit qu'il y ait des chances que ça soit les mêmes équipes devant, mais en étant un peu plus resserré. Voilà.
Ouais.
Donc pourquoi pas de nouveau Brown ou bien Toyota ou Williams, quoi. Mais.
Ok.
Voilà.
Alors moi j'avais mis
parce qu'après il y aura plus ta rétroactivité là machin.
Moi j'avais mis en essai pour le pronostic j'avais mis Raikkonen devant Massa, donc j'ai fait une ligne toute rouge. Interdiction de rire. J'avais mis Button en troisième devant Rosberg. Et pour ce qui était de la course, je mettais victoire de Raikkonen. Avec une grosse lutte avec Button, justement grâce au Kers, Raikkonen, je le voyais rester devant. Vettel 3e, parce que Vettel a pris 10 places, donc je voyais bien Vettel remonter, et puis je pense que vu les résultats qu'a fait Vettel et les essais, etc., c'est pas impossible. Rosberg 4e, Trulli 5, Alonso 6, Hamilton 7 et Glock 8. Et le meilleur tour pour Vettel.
Ouais, ça se tient.
Bah, et toi, Zozo?
Eh bah, contrairement à ce que j'avais pronostiqué, je crois que Button va encore gagner.
Ah, oh, le mec a pronostiqué comme moi, il a pronostiqué Raikkonen, je sais plus qui. Et là, oui, bah, en fait, entre temps, j'ai réfléchi,
Entre 11h et midi!
Je sais, ça sera peut-être Button.
Je sais pas faire de rétroactivité, moi.
Donc, toi, tu vois Button.
Oui, mais j'ai le tour Raikkonen, mais, et Massa 3e, bouh! Mais je pense que Button va encore gagner.
Voilà, Button qui partira donc de la pole hein, demain, à côté de Trulli. Donc voilà, bah écoutez, ça a été...
Une question pour demain. Il pleuvra ou il pleuvra pas?
Non, je crois pas. Et moi, je sais pas ce qu'il annonce.
Apparemment, ils prédisent de la pluie, enfin, il y a des gros orages attendus pour
quand
demain.
Même, hein.
Tout le monde, enfin, Vettel espère la pluie, Hamilton, bien évidemment, attend la pluie. Quoique, avec Leclerc, je sais pas si la pluie ferait bon ménage.
C'est vrai.
On a quand même vu Raikkonen être totalement enfumé grâce au Kers. Mmh. Il a fait un méchoui dans son cockpit. Donc, mais apparemment, il pourrait y avoir une course pluvieuse demain.
Ouais. Et, moi aussi, je pense qu'il y aura la pluie.
Question à deux balles. Bon. Il faut combien de temps pour mettre ou enlever le Kers? Et est-ce qu'ils ont le droit de le faire avant la course?
Mais ça, c'est question. C'est, je sais pas du tout.
Justement, ce qui était très étrange d'ailleurs en qualif.
Je cherchais la réponse. Moi, je me demandais en Australie, parce que ça devenait clair à la fin des essais pour l'Australie que le Kers, c'était pas le bon choix. Parce que déjà, on avait Weber et Vettel qui faisaient des bons temps. On avait Kubica qui faisait des bons temps sans le Kers et sans le diffuseur magique qui était plutôt devant le Kers. Donc, le Kers, c'était pas un bon choix à Melbourne.
Non,
et je me disais, ce qu'il faudrait, c'est que les équipes le retirent. Et je pense qu'apparemment, dans le règlement, si tu mets le Kers le premier jour, tu dois le garder.
Oui, mais je pense à un truc aussi, c'est que... non, ça, je suis pas forcément d'accord avec toi, parce que justement, chez BMW, là, on va ouais. Tricher un peu. En Malaisie, ils ont fait les essais pour les deux premiers jours, et finalement, Nick a choisi de le mettre.
Parce donc, que, ouais. En plus.
Pense... Mais je pense en fait que le choix, enfin, si tu prends le Kers pour les qualifs, tu le gardes
ça,
pour la
je
course.
Suis d'accord. Mais par contre, je suis pas d'accord avec toi quand tu dis, dès les qualifs, on s'est aperçu que ça servira à rien. Parce qu'au contraire, je pense que, pendant les c'est pas là que te servent le plus le kart, mais en course, dans des situations non. De course, notamment ouais. Au départ ou pour faire des dépassements, là ça peut avoir une réelle importance.
C'est pas tant que ça serve à rien, mais c'est surtout que on s'est rendu compte que c'était davantage un handicap par rapport aux performances de la voiture. On voit bien les performances pour comparer, BMW était sympa, ils nous ont fait le comparatif, les performances entre une voiture avec le kart et sans le kart. Comme disait Shinji, il me disait ça dimanche dernier, il n'y a pas de différence de poids parce que techniquement, toutes les voitures font 700, soit c'est 615 kilos.
605 minimum.
605 minimum, donc il n'y a pas de différence de poids. Mais la différence, elle se fait sur le lest. Et le lest, c'est l'équilibre de la voiture. Et je pense que sur l'équilibre de la voiture, les autres étaient mieux équilibrés et donc avaient une meilleure performance à Melbourne.
Ouais.
Parce que Melbourne, c'est un circuit atypique, donc je pense qu'effectivement c'était un handicap. Ça a été utile en course, on l'a vu avec les Ferrari, on l'a vu avec Hamilton qui a pas mal dépassé, avec Alonso qui a pas mal dépassé. Mais Hamilton, il a d'ailleurs beaucoup dépassé, même Trulli. Voilà, c'est, ils auraient très bien pu se dire là le Kers, est-ce qu'on vraiment en a besoin? La voiture irait peut-être plus vite avec du lest bien réparti pour l'équilibre de la voiture. Ouais, bien sûr, on conclut, Enzo. Alors, ce petit plan va rester, bien évidemment, dans le montage. Hein. Donc, je pense qu'on a fait le tour. On a bien fait le tour.
Là,
hein, oui. en encore une heure et demie. Hein, on prend des bonnes dispositions à chaque fois.
Si tu coupais nos blancs, ça durerait plus court.
Voilà. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine. Enfin, prochainement pour revenir sur le Grand Prix de Malaisie, un Grand Prix qui s'annonce déjà assez intéressant. Merci Enzo,
De rien.
Te retrouve pour tes dessins.
Merci.
Et puis merci Shinji, on te retrouve sur ton blog. Le blog inutile de Shinji, dont j'ai plus l'adresse en tête, mais on le retrouvera. Et puis voilà. Je mettrai un sondage par rapport à ce qu'on a dit dans l'émission, et puis on verra le résultat la prochaine fois. Donc voilà. Salut à tous, et puis rendez-vous dans une dizaine de jours.
Salut.
Salut.
Service après-vente de la F1.
Pour des raisons techniques, votre correspondant n'est plus disponible actuellement. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement. Pour des raisons techniques, votre correspondant n'est plus disponible actuellement. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement.